Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, le 14 mai dernier, juste au sortir du confinement, a été votée la loi Avia, une loi pour faire court contre la haine sur Internet. Une loi qui fait parler d'elle, puisqu'au-delà des oppositions politiques, à la majorité parlementaire, de nombreuses organisations critiquent cette loi jugée liberticide, voire même considèrent qu'il y a là une nouvelle forme de censure. Explication. Loi Avia, le retour de la censure, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, Gauthier de Malafos, vous êtes avocat au barreau de Toulouse, docteur en droit et spécialiste du droit numérique, bonjour.
Bonjour.
Bon connaisseur, alors pardon, il paraît qu'il ne fallait pas dire spécialiste, vous voyez,
peu importe,
en tout cas on a compris. Gaël Cérès, vous êtes journaliste et rédacteur en chef de Médiacité Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous aussi Dominique Anthony par téléphone, vous êtes journaliste et vice-président du club de la presse Occitanie, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci à tous d'être au rendez-vous. On va donc essayer de prendre les auditeurs par la main parce que les agendas des uns et des autres étant bien chargés, si ce n'est pas la vie à la maison où il faut continuer à tout faire, l'école et puis son travail, peut-être que le suivi de la presse se fait de manière moins précise. Alors la loi Avia, c'est donc un texte qui a été voté, c'est le premier texte qui a été voté donc à l'Assemblée nationale au sortir donc de cette période de confinement, adopté le 13 mai dernier, sauf erreur de ma part, qui a donné lieu donc à beaucoup de critiques. On le verra au long de cette émission et de nombreuses interrogations. Mais on va commencer par essayer de voir de quoi il s'agit. Peut-être, allez, sans vouloir tout de suite se lancer dans la polémique, Dominique Anthony, on va commencer avec vous. La loi Avia, il y a une parlementaire derrière, Laetitia Avia, donc qui est de la majorité parlementaire, LREM. Il y a quelque chose d'assez cocasse, c'est-à-dire qu'elle a porté ce projet de loi et elle-même est critiquée parce que elle aurait parfois des attitudes haineuses, voire discriminatoires. Alors, dites-nous un mot du sujet de cette loi et de cette apparente contradiction.
Alors, le contexte, oui, il faut effectivement, vous avez raison, il faut le rappeler. Vous savez que Laetitia Avia, donc qui siège dans le groupe La République En Marche, conteste ce reportage qui a été fait par Mediapart, dans lequel, elle est mise en cause par un certain nombre de ses collaborateurs. Donc elle conteste les accusations qui sont portées par ses collaborateurs. Mais cela dit, il faut revenir, me semble-t-il, et nous allons pouvoir le faire ensemble avec pour vos auditeurs. C'est vrai que le sujet est assez complexe. Il faut revenir sur le fond de la loi. La loi, elle a été votée. D'abord, elle a été votée, il faut le dire, à des hauteurs assez importantes pour 70% contre 30%. Il y a eu 47 abstentions, donc c'est un vote, entre guillemets, sans bavure. Alors, que dit-elle, cette loi? Cette loi, elle est faite pour réguler les réseaux sociaux dans la mesure où il y a effectivement sur les réseaux sociaux, et ça nous l'avons tous constaté, une haine en ligne, des incitations, de la violence, des injures à caractère raciste ou encore à caractère religieux. Et la vraie question est-ce qu'il fallait faire une loi pour ça, une de plus, ou est-ce qu'on pouvait rester avec la juridiction présente? Alors, moi j'ai travaillé un peu, parce que c'est un élément très technique, et je me suis intéressé, mais notre avocat pourra en dire un peu plus après, moi je me suis intéressé sur la position de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. En général, elle a toujours un rapport distancié.
Si ça vous embête pas, Dominique Anthony, avant qu'on voit les commentaires des uns et des autres, on va aller un petit peu plus profondément dans ce qu'elle contient, cette loi. Donc cette loi Avia, donc portée par cette députée qui a donc été adoptée à une majorité, évidemment. Si on précise davantage, donc c'est une loi contre la haine sur les réseaux sociaux et plus précisément qui vise à réguler les injures envers les personnes ou les groupes de personnes à raison de leur origine, de leur appartenance ou non appartenance, à à une race, religion, ethnie, nationalité, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, identité du genre et de leur handicap. Pour la, on va dire, la précision de la loi, qu'est-ce que vous ajouteriez, Gauthier de Malafos, de quoi parle-t-on exactement à propos de cette loi ?
Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à ce qui seraient les propos que l'on pourrait éventuellement faire retirer des réseaux sociaux lorsque ça se présente, on ne sait pas trop de quoi on parle, puisque par exemple les différents éléments dont vous avez parlé, c'est-à-dire les propos qui mettent en cause une personne du fait de sa race, du fait de sa religion, de choses comme ça, existaient déjà dans la loi française. Ce sont les propos discriminants de façon générale. Aujourd'hui, le texte a été voté avec la mention de propos haineux, sans que l'on sache précisément à quoi peut correspondre un propos haineux. Voilà.
Alors donc l'intitulé exact, c'est « Contre les propos haineux », c'est ça ?
Absolument, c'est « Contre les propos haineux », avec une définition de propos haineux extrêmement vaste, puisqu'en fait, le texte semble aller récupérer à droite à gauche, que ce soit dans le droit pénal, presque dans le droit du travail quand on parle de discrimination, dans le droit de la presse quand on parle de diffamation, d'injure, etc., plein d'autres petites définitions juridiques qui mettent dans ce grand panier qu'est le contenu haineux. On parle même de propos terroristes, faisant l'apologie du terrorisme notamment, ou de pédopornographie. Donc il y a vraiment absolument tout. C'est l'une des grandes critiques peut-être qu'on peut faire de la loi d'ailleurs, c'est qu'on ne comprend pas tellement qu'est-ce que c'est qu'un propos haineux.
Alors Gauthier de Malafos, on a pu lire donc que cette loi était inspirée d'une loi allemande. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce à dire qu'en fait il n'y a rien de révolutionnaire et que dans bien des pays européens, cette loi existerait ?
Alors, selon beaucoup de commentaires qui ont été faits, l'origine même du texte viendrait des attentats de Christchurch en Nouvelle-Zélande, puisque c'est à partir de ce moment-là qu'un certain nombre de pays, dont l'Allemagne, comme vous le disiez, qu'un certain nombre de pays se sont mis à légiférer contre ces propos haineux sur les réseaux sociaux. Mais comme vous le dites, l'Allemagne l'a fait avec un an d'avance sur nous. Le texte est passé, lui, en 2018, fin 2018, je crois. Donc eux, ils ont un relatif recul. Et c'est un texte relativement similaire. Alors, ne parlant pas suffisamment l'allemand pour avoir été capable de le traduire, je n'irai pas dans le détail de ce texte, mais ça a été un mouvement relativement général. Hein. Beaucoup de pays ont voté un texte de ce type. C'est assez amusant d'ailleurs parce que dans le rapport parlementaire qui avait été fait pour ce texte, pour justifier le fait, la nécessité de créer un nouveau texte sur ce point, le rapport parlementaire, je crois, commence en expliquant que compte tenu du fait qu'il y a manifestement de plus en plus de contenus haineux sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils ont découvert ça en 2018 ou 2019.
Voilà. Alors, il faut dire donc qu'il y a des sanctions à la clé, puisque les grandes plateformes, donc les opérateurs sur Internet, en fait, auraient 24 heures après signalement de tels propos pour faire en sorte de les retirer, et ce, sous peine d'amende. Expliquez-nous comment ça se passe, Gauthier de Malafos, et puis que risque...
Un élément Dominique Anthony. Sur Christchurch. Le problème qui s'était posé à ce moment-là, c'est-à-dire ça se passait en mars 2019, c'est que Facebook avait expliqué qu'au cours des 24 heures suivant la publication de la vidéo, de la fameuse vidéo montrant l'attentat, ses services de modération avaient réussi à supprimer 1,2 million de copies de la fameuse vidéo, mais avaient échoué à bloquer 300 000 autres copies. C'est-à-dire que là, on avait constaté, alors que tous les moyens étaient là, par rapport aux moyens de Facebook, par rapport aux algorithmes, etc., la difficulté, l'impossibilité de bloquer une sorte de tsunami autour de cet événement qui avait été la tuerie de Christchurch. Donc il y a un problème aussi technique, mais on reviendra sur ça. C'est un élément important que nos auditeurs doivent connaître, c'est-à-dire une difficulté technique majeure.
Oui, vous faites bien d'apporter cette précision. Alors Gauthier de Malafos, sur les risques encourus et la responsabilité des plateformes, et puis on peut imaginer du coup après leur rôle, le rôle qui va être le leur. Mais si on s'arrête sur les sanctions, les amendes possibles, quelles sont-elles ?
Alors vous parliez d'un délai de 24 heures pour supprimer les contenus. Et
Dominique Anthony.
Merci beaucoup. Parler du fait qu'il y avait eu ce problème avec Facebook après les attentats de Christchurch. Il y a deux délais, c'est un peu la nouveauté de la loi. Il y a un délai de 24 heures pour la majeure partie des propos haineux, on va dire, pour garder leur qualification, et un délai de 1 heure, donc encore plus compliqué techniquement pour Facebook, etc. Lorsqu'on est face à des apologies du terrorisme, des contenus terroristes ou pédopornographiques. Donc il y a ces deux délits. C'est un peu la nouveauté du texte. Et pour les sanctions, on en retrouve deux. On retrouve d'abord des sanctions pénales, avec notamment une amende qui peut s'élever à 225 000 euros si mes souvenirs sont bons. Et on a ensuite une sanction administrative qui serait donnée par le CSA. Alors, là aussi, petite originalité, on va dire, de ce texte, qui pourrait éventuellement être critiquable, où là, on va pouvoir mettre une amende qui va être proportionnelle au chiffre d'affaires de la société. Et qui peut aller, sauf erreur de ma part, jusqu'à 4%.
4%, oui.
Ce qui est énorme. Ce d'autant plus qu'il semblerait que ça soit sur le chiffre d'affaires mondial de la société. Voilà. Ce qui pose le problème éventuellement de la sanction. Par exemple, si un contenu haineux se retrouve sur Facebook et qu'on sanctionne Facebook pour la présence de ce contenu haineux, si l'Allemagne le fait, la France le fait, l'Angleterre le fait, et que tout le monde applique 4% du chiffre d'affaires mondial à Facebook, ça va devenir très compliqué pour eux à partir d'un moment. Voilà. Mais voilà les sanctions qui sont prévues au jour d'aujourd'hui.
Alors, donc, cette loi, donc, adoptée le 13 mai dernier, loi dont la fine pointe est donc, les propos haineux sur les réseaux sociaux. Responsabilité donc est donnée à ces réseaux sociaux de faire en sorte sous 24 heures et sous peine donc parfois dans un délai d'une heure ou de 24 heures sous peine d'amende parfois considérable. Dominique Anthony, qu'est-ce qu'on leur demande précisément? Si j'ai bien compris, en fait, il faudrait qu'il y ait une espèce de moyen de signalement unique et tout à chacun aurait aussi une part de responsabilité pour signaler ses propos.
Oui, voilà, alors c'est ça, c'est tout à fait ça. Mais la difficulté, on l'a déjà signalé, elle est d'abord, quel propos? Hein, effectivement, Maître Gauthier de Malafosse a bien dit, quel propos? Il y a un problème de caractérisation, de définition du propos. Quel est le propos qui est sanctionnable, d'une part, et d'autre part, techniquement, est-ce que c'est possible? Alors, il y a un élément très intéressant dans le débat, c'est l'association, la quadrature du net, qui a fait un travail qui a d'ailleurs déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, et qui explique très bien et très concrètement que, en fait, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible de respecter les délais. Et dès lors que ça n'est pas possible, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on pénalise, par exemple, l'hébergeur web qui n'a pas fait son travail à temps? Et par exemple, la quadrature du net considère que les administrateurs techniques, par exemple, et leurs, ne travaillent ni la nuit ni le week-end. Et donc, s'il y a effectivement un propos haineux qui est diffusé la nuit ou le week-end, jamais ni le délai d'une heure, ni le délai de 24 heures ne pourront être respectés. Il y a donc une impossibilité de retirer les contenus signalés à temps, et donc il y a simplement un problème qui est à la fois de forme et de fond. La forme, c'est on ne peut pas, et le fond, c'est au fond, qu'est-ce qui se passe si, bien entendu, l'action qui a été engagée n'est pas réalisée. Alors, il y a donc là un double problème manifeste, et c'est une question qui va se poser au niveau de l'application. Il faut quand même noter que cette loi, pour le moment, qui doit être appliquée à partir du 1er juillet prochain, elle a été portée devant le Conseil constitutionnel. Elle a été portée le 19 mai dernier, et le Conseil constitutionnel a un mois pour statuer et faire connaître sa position.
C'est-à-dire, alors juste, Dominique Anthony,
voilà, c'est important. Oui, il ne faut pas laisser croire à nos auditeurs que la loi, elle est opérationnelle à partir du 1er juillet.
Alors
qu'elle peut se faire retoquer, c'est très important.
On peut ajouter aussi donc que la limite qui est posée aussi, c'est que les signalements abusifs donc sont condamnés d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Donc tout à chacun ne pourra pas se transformer en petit policier sur Internet de manière éhontée sans limite ou sans sanction. Gauthier de Malafosse, avant qu'on fasse une première pause, et puis après dans la deuxième partie qu'on voit plus précisément toutes les critiques, parce que s'il a été voté à une majorité ce texte, il y a de nombreuses organisations professionnelles et de nombreuses autres ONG, entre autres, qui la critiquent. Si on le met en perspective par rapport à l'histoire du droit de la presse ou du droit numérique, il y a eu une loi sur les fake news en 2018, il y a eu une loi sur la confiance dans le numérique en 2004. Quels sont un peu les précédents et qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Alors, des précédents, on en a beaucoup. On avait déjà une armée de textes, pour ainsi dire, pour arriver à condamner ce type de propos. Je vous le disais tout à l'heure, quand vous preniez la définition de ce qu'était le contenu haineux, je vous avais dit qu'on était allé déjà, pour essayer de le qualifier, piquer dans plein d'autres textes préexistants. Donc on a déjà un arsenal juridique et judiciaire, avec la jurisprudence, très important en la matière. On a la loi sur la presse de 1881, le texte a plus d'un siècle et demi. On a la loi sur la confiance en l'économie numérique, la loi de 2004. On a le règlement européen sur la protection des données à caractère personnel. On a la loi sur les fake news aussi, comme vous le disiez. On a déjà un arsenal très important de textes. Un avocat inventif n'aura aucun problème, si vous voulez, à rajouter plein de motifs pour demander le retrait de ces propos. La nouveauté, s'il faut trouver une nouveauté à ce texte, elle n'est pas là. C'est seulement éventuellement dans ces délais, c'est tout. Et dans les sanctions qui sont appliquées, c'est un peu la nouveauté. Pour faire un parallèle, pour vous montrer qu'on avait déjà l'arsenal, et pour rebondir sur les difficultés techniques dont vous parliez tout à l'heure, il y avait, lorsque le règlement européen sur les données personnelles est passé, on a souhaité créer, je ne sais pas si vous vous souvenez du débat, un droit à l'oubli. On appelait ça le droit à l'oubli numérique. L'idée, c'était de faire en sorte que quelqu'un puisse faire disparaître un contenu le concernant d'Internet. Et ça s'est appelé à la fin le droit au déréférencement. Et je me souviens qu'il y avait eu une conférence à Toulouse où l'un des haut représentant, on va dire, de Google France était venu et avait dit « Écoutez, c'est très bien que vous souhaitiez faire un droit à l'oubli, c'est très intéressant, mais nous, en tant que Google, on a quasiment l'incapacité technique de vous donner raison. Pourquoi ? Parce que si, par exemple, une photo, un propos est posté sur Internet et que vous voulez le faire disparaître d'Internet, dès qu'il a été posté, il est copié, diffusé, il est diffusé partout. Donc, si vous arrivez à le faire retirer une fois...
C'est les répliques qui vont être difficiles à retirer.
C'est les répliques que vous n'arriverez jamais à enlever. Et même Google reconnaissait à l'époque pour le droit au déréférencement, on n'y arrivera pas, quoi. Ou très, très, très difficilement. Et je pense que ça va être la même chose.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver parce que une des questions, enfin parmi les multiples questions ou interrogations qu'on a pu lire, il y a celle aussi du pouvoir qui est donné donc aux fameux GAFA et à toutes ces grandes plateformes. Est-ce à elles, quelque part, de réguler ? Est-ce que là, on ne laisse pas au privé ce qui relève normalement de la puissance publique ?
Thank you. Présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Loi via le retour de la censure, c'est pour rappel le thème de l'émission, point d'interrogation bien sûr, c'est le thème de l'émission Vivante Église de ce matin autour du plateau. Gauthier de Malafosse, qui est avocat au barreau de Toulouse, docteur en droit, Gaël Serres, rédacteur en chef de Médiacité Toulouse, et Dominique Anthony, donc qui est aussi journaliste, pardon, et Dominique Anthony, journaliste et vice-président du Club de la Presse Occitanie. Alors maintenant qu'on a présenté cette loi Avia, pour ceux qui nous prendraient en cours de route, c'est une loi donc votée le 13 mai dernier contre les propos haineux sur les réseaux sociaux. On va essayer de parler, même si vous avez déjà commencé à le faire, de toutes les questions qui se posent et surtout de toutes les critiques qui ont eu lieu. Alors il y a une première interrogation. Si on y va de manière graduelle, c'est qu'on laisserait donc au GAFA. GAFA, donc c'est un acronyme pour Google, Amazon, Facebook et puis il m'en manque un, Apple.
Apple.
Voilà, une responsabilité qui ne relève pas, qui ne serait pas forcément la leur. Bref, ils pourraient devenir eux-mêmes quelque part les juges des propos à retirer ou pas. Alors Gauthier de Malafosse, est-ce que c'est une lecture journalistique de cette loi ou pas ?
Non, je ne crois pas du tout et je crois que vous avez extrêmement raison sur ce point. À noter au demeurant que les GAFA, notamment par Mark Zuckerberg, qui est le PDG de Facebook, l'a dit à plusieurs reprises, ils ne veulent pas de ce pouvoir. Ils considèrent que ça n'est pas de leur responsabilité de décider si oui ou non un propos doit être retiré ou pas d'Internet. Donc on leur donne cette charge dont ils ne veulent pas. Le deuxième point important, c'est que je pense que de toute façon, au fond, ils ne le feront pas. C'est-à-dire que ça va être soit traité par des algorithmes, soit, et c'est l'une des inquiétudes, on pourra en reparler éventuellement, ils supprimeront tout, sitôt qu'il y aura une dénonciation, par peur des sanctions, comme vous en avez parlé tout à l'heure. Et donc, ils ne feront pas ce travail, entre guillemets, de régulation. De toute façon, si on leur laisse qu'une heure, dans certains cas, pour trouver le contenu, analyser si oui ou non il est neutre.
Ça laisse pas beaucoup de temps pour réfléchir.
Ouais, très peu. Facebook n'a que 15 000 modérateurs, sur la planète entière, je crois. Donc, et c'est un boulot demeurant absolument épouvantable. Il y avait un article sur Le Monde très intéressant.
Gaël Serres.
Oui, si je peux me permettre, il y a deux précisions. On parle de GAFA, mais je pense qu'Apple n'est pas concerné par cette loi. En fait, c'est les réseaux sociaux et les moteurs de recherche.
Et Amazon non plus. Ouais,
voilà, par exemple. Donc, Quant serait autant concerné que Google, Snapchat, TikTok, etc. serait autant concerné que Twitter, Facebook, etc. Et tous ceux qu'on ne connaît pas qui vont exister dans les années à venir. Et deuxième chose, la censure, en fait, elle est déjà existante sur les réseaux sociaux. Facebook supprime, selon ses critères, par exemple, des tableaux de nus.
L'origine du monde de Courbet a été retirée, absolument.
Donc le risque de cette loi, c'est qu'elle apporte une surcensure pour se prémunir des risques d'amende, pour ne pas courir le risque d'entraîner de longs procès. Peut-être que ces institutions et entreprises vont se dire, allez, chemise et bretelles, et ceinture et bretelles plutôt, et on censure tout, comme ça il n'y a pas de problème.
Il y a un problème presque philosophique en plus derrière ça, c'est que ce qui est liberté d'expression acceptable ou non en France n'est pas du tout la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que si on prend l'actualité récente, si vous regardez des manifestations pour la mort de George Floyd, vous pouvez voir des pancartes visant personnellement de façon très violente Donald Trump, ou des propos qui sont tenus à la télé de façon extrêmement violente, qui seraient pas acceptables en France. On a eu ce parallèle avec pendant la crise du Covid-19 à Toulouse, où des gens ont écrit par un macronavirus, et ont fini en garde à vue pour ça.
Mais vous voulez dire par là qu'il pourrait y avoir quelque part une interprétation maximaliste de toutes ces plateformes en prenant la législation d'un pays qui est la plus forte.
C'est
pour
même pas législatif, c'est culturel.
Culturel, c'est absolument culturel. Et je pense, si vous voulez, qu'ils n'essaieront même pas de se poser la question si le contenu doit être supprimé ou non, parce que très souvent, par exemple, ils se diront non, ça ne doit pas être retiré, mais ça sera dans leur conception de la liberté d'expression, qui n'est pas la même en France.
Dominique Anthony, Gauthier de Malafosse me disait, et on peut les citer, donc, que le syndicat de la magistrature, entre autres, était vent debout contre cette réalité. On peut imaginer pourquoi, parce que ça, quelque part, ça leur retire une partie de leur travail. Quid du CSA ? Alors, vous êtes pas, vous représentez pas le CSA, mais vous faites partie des organes de presse, donc on peut imaginer qui contribuent d'une manière directe ou indirecte, en fait, au développement d'une éthique dans la profession. Est-ce le rôle du CSA que de jouer aux gendarmes sur ce sujet en France ?
Non, certainement pas, si vous voulez. Alors, sur la question de la surcensure, oui, vous avez raison. En fait, le vrai problème pour les GAFA, c'est le risque de dire, bon, on ne sait pas, on va nous demander de retirer ce contenu, donc on coupe tout, on enlève tout. Donc c'est ça la vraie difficulté. Pour la première difficulté, c'est la surcensure. Où ça commence et où ça finit, ça c'est un vrai problème. La question du CSA, oui, vous avez raison. En quoi le CSA, qui va être chargé en l'espèce de faire appliquer cette loi, est légitime? C'est un vrai problème, parce que en fait le CSA se substitue de fait à un juge, se substitue à l'élément de droit. Et là il y a une question. Alors on estime dans les attendus de la loi, on estime qu'effectivement c'est l'organisme qui peut réagir le plus vite et avec les éléments les plus convaincants, je veux bien, mais là il y a un problème de fond qui est posé. C'est-à-dire on confie au CSA le soin de dire le bien et le mal. Et avec quelle possibilité en termes de sanctions, on l'a dit, c'est les 4%, etc. Mais ça pose un véritable problème. Le CSA n'est pas, selon moi, l'organisme adéquat qui peut déterminer si oui ou non un propos est haineux ou pas.
Gaël Cérès, vous vouliez réagir.
Oui, c'est pas tout à fait le CSA qui doit décider ça. Le CSA, il est chargé de veiller au bon fonctionnement de la loi, donc il doit contrôler l'application. Alors, c'est peut-être pas son rôle, mais il n'est pas chargé en tout cas de la censure.
Il n'est pas chargé de la censure, mais enfin, pour faire de manière très grossière, il est chargé d'appeler de temps en temps les plateformes pour leur dire vous ne faites pas votre travail.
Voilà, par exemple. Ouais. Et elle se pose donc la question des moyens, parce que le nombre de publications haineuses qui effectivement existent, et ce n'est pas très récent, le CSA va devoir grandement augmenter ses effectifs pour pouvoir veiller à la bonne application de cette loi.
Gauthier de Malafosse.
La personne en charge de la régulation, le censeur, pour ainsi dire, c'est le particulier. C'est lui qui va dénoncer très souvent.
Puisque c'est lui qui signale.
Bien sûr. Et vu le délai, c'est-à-dire 24 heures ou une heure d'action, le CSA sera quasiment jamais mis dans la boucle. Ils interviendront, je suis tout à fait d'accord, après coup, pour vérifier le respect de la loi. Mais le censeur, c'est le particulier. Et vous disiez tout à l'heure que le syndicat de la magistrature était vent debout parce qu'on leur enlevait une partie de leur travail. Je vais faire la promotion des magistrats. C'est un juge de faire ça. C'est un juge de déterminer objectivement, en connaissance de la loi et en connaissance de la jurisprudence, si oui ou non un propos est haineux. Pas un particulier. C'est aberrant.
Et pas aux entreprises laquelle on délègue ce rôle public.
J'aimerais donc maintenant qu'on revienne sur les oppositions politiques et puis les oppositions d'un certain nombre d'organisations professionnelles ou d'ONG. Alors, ont été vent debout contre l'adoption de cette loi les Républicains, la France Insoumise, le Rassemblement National, on pourrait citer aussi Liberté et Territoire. Il y a donc des recours qui ont été déposés devant le Conseil constitutionnel, vous en avez parlé entre autres de la part des Républicains. Mais alors, côté organisation, donc il y a, semble-t-il, les principales organisations professionnelles du numérique, probablement peu connu de nous tous, ASICS, Syntec, Tech in France, et puis des gens d'opinions politiques fort différentes, puisqu'on peut lire des critiques tant de la part des lobbies LGBT que des articles au vitriol, dans Valeurs Actuelles. Le fond du propos, ça serait en fait la caractérisation des propos haineux. Par exemple, si on commence du côté LGBT, vous nous disiez en off, on va dire avant l'émission, quelle est la critique chez eux?
Oui, ben en fait, c'est
Gaël Cérès.
Une question qui, enfin, certains militants LGBT se réapproprient les insultes qu'ils reçoivent. Par exemple, quand on les traite de gouines, de PD, etc. Certains le prennent comme une médaille. Enfin, l'utilisent, le réapproprient et l'utilisent dans leur bio, par exemple, dans leur biographie sur Twitter, sur Facebook. Où, moi, je suis PD, moi, je suis gouine, etc. Des gens qui ont fait ça ont vu leur compte Twitter récemment supprimé, alors que la loi Avia n'est même pas appliquée encore, parce qu'ils utilisaient un mot haineux alors que c'est dans une dynamique militante, revendicative, pour dénoncer en fait ces insultes. Et donc le problème de cette loi, c'est que si elle est appliquée, eh bien, ça privera d'un outil des militants qui veulent, qu'on soit d'accord ou pas, faire reconnaître leurs droits. Et donc ils seront juste encore un peu plus impuissants dans leur combat. Et ça concerne là les LGBT, mais on peut le reproduire à peu près à toutes les formes de militance.
Et puis ça peut être juste une manière de citer, on va dire, les paroles de la partie adverse, comme le ferait aussi à n'importe quel avocat, peut-être tout parfois dans une plaidoirie.
Ou un journaliste. Si les journalistes souhaitent dans un article, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, mais citer par exemple un livre ou des choses comme ça, ils ont peut-être le risque même de se faire retirer le contenu de leur article à cause de la citation qui est dedans.
Alors, d'aucuns, Dominique Anthony, parle aussi d'une loi post-soviétique. Peut-être que ça ne rejoindra pas votre sensibilité politique personnelle, mais par exemple, je citerai, je prends les extrêmes exprès, le journal Valeurs Actuelles, qui est assez vent debout contre cette loi, et qui laisse entendre donc l'interprétation des propos haineux, en fait, pourrait aller loin. C'est-à-dire que demain, un journaliste, par exemple, pourrait être interdit de publier un livre. Je le dis au risque de vous choquer, mais c'est surtout pour parler aussi de la liberté d'expression, hein. Émettre des réserves, par exemple, sur la loi sur le mariage pour tous, demain, dans une publication, ne serait plus possible. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument, Dominique Anthony, ou à ces réserves ?
Oui, alors, si vous voulez, moi ce qui m'interpelle quand même, c'est effectivement, là, il y a une conjonction des contraires. Hein, effectivement, l'extrême droite, l'extrême gauche, quelque part, il y a une conjonction qui peut étonner. Ma foi, si c'est au nom de la défense de la liberté, moi, je suis tout à fait pour, bien sûr. J'ai essayé de regarder un peu et de prendre un peu de la hauteur. Et c'est pour ça que je suis allé voir un peu ce qu'écrit la Commission nationale consultative des droits de l'homme. C'est donc une commission qui est composée de 70 membres à peu près, et qui travaille sur les textes notamment qui sont présentés dans le cadre de l'Assemblée nationale, du Sénat, les propositions de loi et les projets de loi. Eh bien la commission, elle considère que ce texte fait peser une menace disproportionnée sur la liberté d'expression en raison de la procédure envisagée. Et je crois que c'est là qu'on touche. On touche du doigt le fond du débat. C'est qu'il y a dans ce texte une menace disproportionnée sur la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'en fait, on prend un risque qui est de limiter la liberté d'expression précisément parce que il y aurait des propos qui seraient supposés haineux. Et moi, je crois que c'est là, sur cet argument-là, que le Conseil constitutionnel va retoquer, pas en totalité, mais en partie, notamment l'article 1 et l'article 7, mais on ne va pas embêter nos auditeurs avec des questions aussi juridiques. Mais je pense que le Conseil constitutionnel va retoquer le texte à cause de la disproportionnalité, et ça, je crois que Maître Gauthier de Malfos doit bien sentir, bien comprendre les choses, entre le mal qui est fait et la façon que l'on veut mettre en place pour le pénaliser. Et la Commission nationale consultative dit autre chose, elle regrette le manque de dispositions de prévention dans le projet de loi, notamment des mesures ambitieuses concernant l'éducation au numérique. Et là, on est vraiment au cœur du débat. Et là, nous, Club de la Presse Occitanie, on travaille beaucoup sur cette sensibilisation, notamment des jeunes générations, par rapport au risque à l'avantage du numérique.
Gaël Cérès, vous vouliez réagir ?
Oui, mon confrère évoquait l'article 1, donc sans rentrer dans le détail, c'est quand même intéressant de s'y pencher, parce que c'est un article qui a été rajouté un peu à la dernière minute et qui change complètement ce texte, qui était plus ou moins inutile ou impuissant dans sa structure. Mais cet article 1, il donne la possibilité à la police de signaler des contenus relevant du terrorisme et d'exiger leur censure en une heure et leur blocage, le blocage des sites, sans donner le pouvoir à un juge. C'est vraiment juste une décision de police. Et là, clairement, on voit vraiment toutes les dérives qui peuvent sortir de ça, parce que y a vraiment aucun contrôle et c'est vraiment la simple appréciation d'un policier qui pourrait partir d'une très bonne intention, mais ça peut aller très très loin dans la dérive de l'expression. Global.
Gauthier de Malafosse, on peut avoir l'impression aussi que en fil de cette conversation et donc de ces commentaires que l'on peut lire des uns et des autres, que le serpent se mord un peu la queue, parce que tout le monde est d'accord pour considérer qu'il y a des choses sur les réseaux sociaux qui ne devraient pas être là, et en même temps que cette haine peut, étant mal définie, eh ben, ça peut glisser vers l'aversion, l'antipathie, voire les simples réserves. Alors, y a-t-il en droit français ce qu'il faut ? Comment s'en sortir de cette quadrature du cercle ?
On était déjà équipé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en droit français, pour en principe être capable de lutter juridiquement contre ce type de propos ou de choses comme ça. Je crois que le texte n'est venu que pour des raisons totalement pragmatiques, mais totalement pragmatiques, qui sont de se dire, le problème c'est que quand on voit un contenu sur Internet, il faut réagir extrêmement rapidement pour y mettre un terme.
C'est ce que j'allais vous dire, encore faut-il avoir aussi les moyens juridiques et policiers, même si la législation existe.
Et la seule façon d'aller vite, c'est malheureusement d'enlever l'étape magistrat. Et c'est ça qui n'est pas normal. C'est que peut-être que, en effet, des choses en amont auraient dû être préparées plutôt que de préparer un texte qui enlève le magistrat. Titre un exemple, si vous voulez, en France, l'une des procédures les plus rapides qu'on ait, c'est la procédure de référé. À Toulouse, si vous lancez une procédure de référé, si vous avez une décision en 3 ou 4 mois, vous êtes content. 3 ou 4 mois sur Internet, c'est trop long. Si vous laissez le propos haineux 3 à 4 mois avant que le juge vous autorise à le retirer, c'est comme ça que ça devrait fonctionner.
Pour reprendre l'exemple cité, ça peut faire beaucoup de vues sur des actes terroristes.
Regardez le cas par exemple de M. Griveaux qui en même pas une matinée a perdu sa candidature. Sur Internet, les dégâts sont gigantesques et extrêmement rapides. Et donc le problème c'est que le droit français est équipé, mais procéduralement, on ne peut pas aller assez vite. Donc on a fait une loi pour essayer d'aller aussi vite qu'Internet, alors loi qu'on a mis plus d'un an à voter, donc même pour ça on est lent, entre guillemets, mais on a essayé de créer une loi qui va aussi vite qu'Internet. Le seul problème c'est que si on essaie d'aller aussi vite qu'Internet, comme vous le disiez très justement, le censeur c'est le particulier, ça ressemble en effet un peu à la période post-soviétique on va dire, et puis vous vous retrouvez avec la police qui peut dénoncer, et on supprime, on vous prive de votre liberté d'expression, sans que ce soit un juge. Tout le monde peut accepter de perdre une liberté si c'est l'autorité judiciaire qui vous la retire, mais pas si c'est la police toute seule ou un particulier, quoi.
Gaël Cérez.
La question, en fait, c'est les moyens. Parce que, par exemple, la plateforme Pharos qui existe, qui est une plateforme de policiers et qui est destinée à traiter le signalement de contenu illicite.
Donc c'est une plateforme de la police française.
Qui existe déjà sur Internet. Elle est, par exemple, appeler quand il y a des cas de harcèlement, de cyberharcèlement, où on poste des photos de nus de son ancienne copine, etc. Enfin bref, des cas de harcèlement sexuel. Les gens appellent cette plateforme pour dire « je vous signale ce contenu, faites quelque chose, allez emprisonner ou enquêter la personne qui a fait ça ». Cette plateforme, elle dispose de 30 policiers actuellement. Donc elle est débordée en fait. Enfin, il y a une association qui lutte contre une certaine forme de ces cyberharcèlements. Elle envoie chaque semaine des centaines de signalements. Donc ces policiers, ils ne peuvent absolument pas tout traiter.
Et si on y met entre autres le harcèlement scolaire, ça peut...
Ça, si on y met le terrorisme, si on y met toutes les formes de haine, c'est juste pas possible. C'est pas un arsenal juridique qu'il faut, puisqu'on l'a déjà. C'est un arsenal matériel. Il faut des gens pour traiter ça et pour combattre la haine.
Et il n'y aura jamais d'arsenal suffisamment grand, pour ainsi dire. Si vous avez 2 milliards de comptes, par exemple, Facebook, c'est pas 30 malheureux policiers qui vont pouvoir les surveiller, c'est inenvisageable.
Et avant de couper, pour passer à la suite, le problème aussi, c'est de censurer ces propos, ces contenus, ça les invisibilise, et on ne condamne pas les coupables, en fait. Donc on ne fait pas du tout de pédagogie. Or, la loi, elle sert à ça. Les peines servent à ça, à dire ce que vous avez fait, c'est pas bien, on vous explique pourquoi. Là, on va juste supprimer le contenu et la personne ne sera jamais inquiétée et sa victime ne pourra pas se retourner contre elle. Donc, c'est contre-productif en fait.
Alors, il faut signaler quand même, à propos de l'éducation, qu'il y a normalement un volet éducatif. Les opérateurs seraient tenus, lors de la première utilisation de leur service par un mineur âgé de moins de 15 ans, de sensibiliser le mineur et ses parents à une utilisation civique et responsable des réseaux sociaux. On se demande bien comment ils vont savoir que la personne qui clique derrière Internet à moins de 15 ans. Bref, on fait une deuxième pause et on va vous retrouver pour finir sur ce sujet et puis pour parler du conseil de déontologie journalistique. C'est donc un conseil qui a été créé, sauf erreur de ma part, en décembre dernier. D'aucuns y voient un nouveau conseil de l'ordre des journalistes, donc une forme de régulation de la profession que certains appellent de leur vœu, entre autres peut-être les Français, et les journalistes, eux, ne sont pas à l'aise. On en parle tout de suite après.
Radio Présence à Castelsarrasin, 93.3. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Loi via le retour de la censure, point d'interrogation. Pour ceux qui nous rejoindraient, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Avec nous, Gauthier de Malafosse, avocat au barreau Toulouse, Gaël Cérès, journaliste et rédacteur en chef de Médiacité, et Dominique Anthony, journaliste et vice-président du club de la presse Occitanie. Je voulais, à la fin de cette émission, parler du conseil de déontologie journalistique. Il a donc été créé en décembre dernier. Ma première question sera pour vous, Dominique Anthony. On l'a vu à l'occasion de la crise des Gilets jaunes, et je l'ai lu entre autres dans le journal La Croix, qui tous les ans publie donc un baromètre de la confiance des Français à l'égard des médias. Jamais la confiance des Français à l'égard des médias n'a été aussi faible, semble-t-il, en tout cas dans l'histoire récente, si on prend les 10, 20, 30 dernières années. Et les Français, d'une certaine manière, appellent de leur vœu une forme de régulation de la profession. Alors, que pense le club de la presse Occitanie ? Avez-vous une position commune sur la création de ce conseil de déontologie journalistique ?
Oui, absolument, et nous y sommes tout à fait favorables, et plus que ça, puisque le club de la presse Occitanie est le seul club de la presse à siéger au conseil de déontologie journalistique et de médiation. Vous avez omis de prononcer le dernier mot, la médiation, mais on est en plein dedans. Effectivement, la médiation, c'est un élément central. Oui, nous y sommes, et nous sommes représentés par un journaliste, Pascal Parot. Et au niveau de la région Occitanie, quelqu'un que vous connaissez très certainement, Sylvain Attiel, qui est le directeur de l'agence de presse Audio A2 PRL, représente, lui, le collège éditeur, puisque nous avons à la fois une représentation égale entre les journalistes, 10 collèges égaux, 10 journalistes, 10 médias qui sont représentés par leurs patrons, les responsables éditoriaux, et 10 personnes qui représente le public.
Alors Dominique Anthony, quel est son rôle ? Donc j'ai lu, organe professionnel d'autorégulation indépendant de l'État, instance de médiation et d'arbitrage entre les médias. Quel est le propos et puis peut-être le pouvoir de ce conseil de déontologie journalistique ?
Il n'a aucun pouvoir. De fait, il n'a aucun pouvoir. Ça n'est pas un tribunal. On ne relaxe pas, on ne condamne pas. Ça n'est pas un ordre des journalistes. Puisque à la différence d'un ordre professionnel, vous le savez, on ne délivre pas d'autorisation d'exercer, on ne délivre pas de carte, on ne forme pas les gens, non. Simplement, ce que fait essentiellement le conseil, c'est d'établir un lien entre le public qui a des choses à dire aux journalistes et les journalistes eux-mêmes. Il ne s'agit pas de sanctionner les médias, mais simplement il s'agit de renouer les liens avec le public.
Concrètement,
et ça je pense que nous l'avons tous vécu, en tout cas nous journalistes, moi je siège au Conseil économique et social d'Occitanie au titre du club de la presse, et je suis en permanence interpellé sur cette question. C'est-à-dire qu'en gros, on me reproche, les interviews qu'on a entendues sur BFM TV, on me reproche tel ou tel article, telle interview, etc. Et c'est vrai que si on veut rétablir le lien entre le public et les journalistes, il faut permettre au public de dire « voilà, moi j'ai entendu ceci, ça ne me convient pas, j'estime que les règles déontologiques n'ont pas été respectées, voici pourquoi ».
Alors premiers exemples justement, Dominique Anthony, il y a trois avis donc, qui ont été rendus, il y en a un, donc, celui qui a fait le plus de bruit, c'est celui qui a été rendu à l'adresse d'une interview donc, d'Apolline de Malherbe, célèbre intervieweuse donc, sur BFM TV, qui interrogeait donc Juan Branco, et qui est donc avocat dans Bourdin Direct et à qui il a été reproché la conduite de l'interview et surtout sa conclusion. Il faut dire donc que Juan Branco, enfin je vais vous laisser l'avocat de Piotr Valensky, l'artiste russe accusé d'avoir diffusé des vidéos à caractère sexuel portant atteinte à la vie privée de Benjamin Griveaux. Tout le monde ne suit pas l'actu pied à pied, mais voilà, probablement que cet avis est symbolique.
C'est le final hein, qui a posé problème. Le final de l'interview est suivant. Il y a Pauline de Malherbe qui dit ceci. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pavlinsky n'est pas que l'exécutant et vous le manipulateur. Donc cet élément-là, alors d'abord il y a là une prise de position quand même assez ferme, assez nette. Et puis surtout, celui qui est interviewé n'est pas en capacité de répondre, puisque c'est la fin de l'interview et c'est le dernier mot, c'est le mot du journaliste qui, entre guillemets, fait foi. Vous avez raison, il y a eu au total 63 saisines de la part du public, hein, depuis décembre dernier, c'est quand même pas mal. Alors il faut voir que, en fait, sur les 63 saisines, il y a 31 actes journalistiques qui sont concernés, et il y a 3 avis. Et sur l'avis que vous évoquez, que dit le conseil? Ben, le conseil, il rappelle les règles déontologiques, hein, comment doit se faire une interview, il rappelle la charte, alors après ça devient un peu technique pour nos éditeurs, mais il rappelle les fondamentaux du journalisme, on va dire, hein, la charte de Munich, notamment, la charte d'éthique mondiale des journalistes aussi, et il dit ceci, les chartes demandent aux journalistes de veiller à distinguer différentes formes d'intervention. À ce titre, le rôle du journaliste qui conduit un entretien n'est pas d'être un contradicteur, mais de poser les questions qui lui apparaissent nécessaires pour établir des faits ou préciser le point de vue de son interlocuteur. Voilà le fond du débat.
Alors il y a deux autres avis, on peut les citer rapidement, qui ont été émis. L'un concerne donc un reportage de France 3 Pays de Loire, une intrusion clandestine chez une éleveuse. L'éleveuse donc a porté plainte d'une certaine manière et on lui a donné tort, si j'ai bien compris. Et puis l'autre, c'était une couverture de Paris Match montrant l'arrestation de ce fameux Piotr Walensky, instigateur de l'affaire Griveaux. Et à chaque fois, les médias, donc on va dire en botté en touche, n'ont pas répondu. Alors, Gaël Serret, je ne sais pas si vous pouvez répondre au nom de Médiacité Toulouse ou de Médiacité tout court, ou à titre de journaliste, qu'est-ce que vous en pensez ?
À titre journaliste tout court, et citoyen, moi je pense globalement que c'est une bonne initiative. Elle est relativement impuissante actuellement et elle est en train de se forger tant sa légitimité que son expérience. Faut lui donner sa chance, vu ses pouvoirs assez inexistants, parce qu'elle a pas de elle peut rien contraindre, elle peut pas pénaliser. Il n'y a pas de grand risque pour la liberté d'expression, pour l'exercice des journalistes. Au mieux, elle va rappeler les fondamentaux et...
Qu'est-ce que vous y voyez comme vertu? Alors c'est quoi? C'est une soupape citoyenne et puis une espèce d'instance éthique qui redonne le cap, c'est ça?
Si certains auditeurs ou spectateurs ou lecteurs ne savent pas comment consulter, contacter les médias pour se plaindre d'un traitement qu'ils jugent défaillant, et que là, ils connaissent cette instance et qu'ils la saisissent, tant mieux. Plus il y a de dialogue, plus il y a de canaux de dialogue, mieux c'est. Après, il faudra voir si c'est juste un comité de plus qui est inutile. Bon, bah voilà, on aura juste perdu un peu notre temps à en discuter, mais c'est franchement pas très grave. Et vu que c'est une instance indépendante de l'État, du gouvernement, tout va bien, quoi.
Voilà, c'est le Conseil de déontologie journalistique. On aura certainement l'occasion de reparler de cette réalité qui ne fait de toute façon que commencer. Bref, affaire à suivre aussi quant aux avis, à l'avis qui va être rendu par le Conseil constitutionnel. Et là, je reviens sur la loi Avia. Merci beaucoup à tous d'être venus ce matin au micro de cette émission pour essayer de faire un peu de pédagogie et nous donner nos points de vue, donc sans surpoint d'interrogation. Eh bien, le point d'interrogation peut-être est encore justifié. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.